Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les États-Unis, le Japon et les Philippines dénoncent le comportement dangereux et agressif de Pékin en mer de Chine. Tension subie par les pêcheurs philippins. Reportage à suivre.
La justice argentine accuse l'Iran des attentats de Buenos Aires contre la communauté juive en 1992 et 94. Explication de notre correspondante sur place.
Livre Emploi, c'est le nom d'une plateforme pour mettre en relation candidats et maisons d'édition avec des offres pour des métiers parfois méconnus ou peu identifiés, vous l'entendrez.
Autour du RN et du PS de menacer le gouvernement d'une motion de censure, alors pourquoi une telle effervescence maintenant? Jean Lémarie y revient dans son billet politique à 8h15.
La Maison-Blanche avertit Pékin. Le président des États-Unis, Joe Biden, promet de défendre les Philippines en cas d'attaque en mer de Chine méridionale. Toute attaque déclencherait la mise en œuvre de traités de défense mutuelle. Kili, Washington et Manille, prévient-il. Joe Biden, lors d'un sommet avec ses homologues japonais et philippins, s'est emparé du sujet. Des tensions croissantes dans une région stratégique dont Pékin revendique 90% du territoire. Ces derniers mois, les accidents se sont multipliés entre les navires chinois qui occupent le terrain, et les Philippins qui ont bien du mal à protéger leurs intérêts dans leur propre zone économique exclusive. Un affrontement géopolitique et ce sont les pêcheurs philippins qui en font les frais. Le reportage de Nicolas Roca.
Dans le petit port de Masinloc, les prises du jour sont arrosées d'eau de mer pour garder un semblant de fraîcheur. Parmi les passants, Anthony jette un regard désapprobateur sur les poissons vendus à la criée.
Ici, les poissons sont trop petits. Nous, on préfère aller pêcher à Scarborough.
Avec son capitaine Efren, ils se rendent plusieurs fois par mois au récif de Scarborough. Un atoll dans la zone économique exclusive des Philippines à plus de 900 km des côtes chinoises. Mais depuis 2012, Pékin y fait sa loi.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas, surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher, ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Et cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que tu quittes la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Ils se disent abandonnés par leurs autorités.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. Souvent, quand on est interviewé et qu'on nous demande « qui vous protège ?», on répond « les gardes-côtes chinois, parce qu'ils sont les seuls à être là ».
Malgré leur sens de l'humour, la multiplication des incidents ces derniers mois les inquiète.
C'est très dangereux. On pourrait se retrouver en guerre. J'ai peur que l'escalade se poursuive.
Nous, on essaye juste de gagner de l'argent. Eux, la guerre, c'est leur vie.
Les Philippines et leurs alliés comptent augmenter les patrouilles pour répondre à la présence chinoise. Efren et Anthony, eux, n'ont pas l'intention d'abandonner leur terrain de pêche.
Nicolas Roca. Washington, Londres et Moscou appellent l'Iran à la retenue. Téhéran menace d'attaquer Israël pour se venger de la frappe mortelle qui avait touché un bâtiment consulaire iranien à Damas, en Syrie. Par précaution, les États-Unis ont annoncé restreindre les mouvements de leur personnel diplomatique en Israël et des membres de leur famille. L'Iran, accusé par la justice argentine d'être derrière les attentats de Buenos Aires, ceux commis en 1992 et 94 contre la communauté juive. La Chambre fédérale de cassation a également désigné le Hezbollah comme l'auteur des attaques et a qualifié les deux attentats de crimes contre l'humanité. Explication de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
Une décision historique pour la communauté juive en Argentine, victime en 92 d'un attentat contre l'ambassade d'Israël, qui a fait 29 morts, et en 94 d'une attaque à la voiture piégée à Lamia, la mutuelle juive, faisant 85 morts et 300 blessés. Depuis près de 30 ans, l'enquête piétine et a même été entravée. Deux procès ont d'ailleurs été menés en Argentine. Un procès d'abord sur l'attentat de Lamia, qui ne donne rien, faute de preuves, et un autre en parallèle ouvert en 2006 pour entrave à l'enquête, où en 2019, le juge en charge du dossier, deux procureurs et l'ex-responsable des renseignements ont été condamnés à de la prison ferme. Ce sont ces condamnations que la Chambre de cassation vient de réviser et de confirmer. Et dans le cadre de cette nouvelle investigation, la Chambre accuse donc l'Iran et le Hezbollah des attentats. Les raisons de ces attaques pour les juges, la décision unilatérale du gouvernement argentin au début des années 90 d'annuler trois contrats de fourniture de matériel nucléaire à l'Iran. Hier soir, le président Milei, en voyage aux États-Unis, a publié un communiqué célébrant la décision de la Chambre de cassation qui met fin, je cite, à des décennies de prorogation et d'entraves, avant d'affirmer que depuis son élection, c'est terminé l'ère de l'impunité en Argentine.
Six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la majorité, voire la totalité des 2 200 000 habitants de Gaza sont confrontés à la famine, a affirmé hier David Satterfield, envoyé humanitaire dans l'enclave palestinienne pour le gouvernement américain. Les ONG ont déjà donné l'alerte pour Human Rights Watch. Utiliser la famine comme arme, c'est un crime de guerre. Témoignage recueilli par Alice Froussard depuis Ramallah.
Chaque jour, c'est le même rituel, sortir sur les marchés, dans les rues, demander aux voisins pour chercher un peu de nourriture dans le nord de Gaza. Ahmad n'a que 12 ans, mais il attend près de la plage un prochain largage alimentaire.
Je suis juste ici pour essayer d'avoir un repas pour mes frères qui sont plus jeunes. Ils ne cessent de me dire qu'ils ont faim, mais je reviens encore une fois sans rien. Pourquoi ils n'apportent pas l'aide directement aux familles? Comment une femme qui a perdu son mari réussira à apporter à manger à ses enfants?
Depuis déjà 2 mois, plusieurs pays larguent régulièrement des colis d'aide alimentaire au-dessus du nord de la bande de Gaza. Au sol, les plus jeunes risquent leur vie pour les récupérer en premier. Ceux qui n'y parviennent pas se contentent d'herbes sauvages comme le roubaisé qu'ils cueillent dans la nature, ce qui est très loin d'être suffisant.
Ici, on vit dans une situation terrible. Il n'y a rien. Et lors des distributions, tu peux mourir en te faisant tirer dessus par l'ennemi ou te faire piétiner par la foule.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, au 1er avril, 32 personnes, dont 28 enfants, étaient mortes de malnutrition et de déshydratation dans des hôpitaux du nord de la bande de Gaza.
Alice Froussard. Donald Tusk, le premier ministre polonais, avait promis de rendre l'IVG légale quand il a pris la tête du gouvernement en décembre. L'avortement est quasi interdit dans le pays qui a connu un profond recul du droit des femmes ces dernières années. Alors le débat sur l'assouplissement des lois qui a commencé hier au Parlement est très attendu, Martin Chabal.
C'est l'aile gauche de la coalition au pouvoir qui espère rendre l'avortement légal jusqu'à la 12e semaine de grossesse. La députée de gauche Monica Rosa a tenu à faire entendre son message aux députés de la droite populiste qui défendent la législation actuelle.
Vous n'avez jamais été enceinte et vous ne savez pas ce que signifie porter un enfant et avoir peur. Et qu'importe vos commentaires sur l'éthique ou la morale, vous ne saurez jamais ce que signifie avoir peur d'être enceinte en Pologne.
La députée Anna Maria Żukowska, quant à elle, porte un projet de dépénalisation de l'aide à l'avortement.
Aujourd'hui, en Pologne, aider quelqu'un à avorter est puni de 3 ans de prison. 3 ans, c'est un scandale et c'est inacceptable.
Mais ces débats sont un vrai test pour la majorité parlementaire et révèlent la fragilité de la coalition. Tous ne sont pas d'accord sur la libéralisation de l'avortement. Dans le même camp, certains ne veulent l'autoriser qu'en cas de viol, de malformation du fœtus ou de menace pour la vie de la mère. Et puis le président Andrzej Duda, allié des populistes de droit et justice, a déjà menacé d'imposer son veto à tout changement sur l'avortement.
8h08, suite du journal. Margot Delpierre, il y a quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Les premiers étudiants dans les logements Crous seront réquisitionnés, ont été relogés.
Oui, 82 pour l'instant ont quitté 4 résidences parisiennes destinées à des pompiers ou à des CRS pour en gagner d'autres. Déménagement suivi dans le 13e arrondissement près de la bibliothèque François Mitterrand par Thomas Pinaroli.
Les cartons et les petits meubles s'entassent dans le hall d'entrée. Tania fait partie des 22 étudiants qui déménagent.
On a su vraiment il n'y a pas très longtemps, début de semaine dernière, quelle résidence on allait. Et après, on a récupéré les cartons avant-hier. Donc j'ai fait les cartons là ces 2 derniers jours, à toute vitesse. J'ai hâte que ce soit terminé vraiment, d'être installé, de plus bouger.
C'est le Crous qui a fourni les cartons aux étudiants, le camion de déménagement aussi. Et puis il y a une dizaine d'agents pour tout charger.
Vous êtes la deuxième à livrer.
Deuxième à livrer.
Je dois réceptionner mes colis dans 1 heure à peu près dans l'autre résidence.
Vous en l'occurrence, vous allez où?
Dans une résidence à 5 minutes à Louise Bourgeois pour être moins dépaysé, pas perdre des habitudes, pas perdre du temps à se réhabituer.
En fait, chaque étudiant a pu choisir sa nouvelle résidence. La plupart d'entre eux va juste de l'autre côté de la rue pour rester à côté de leur université. Pour Dathan, au contraire, c'est l'occasion de changer de quartier.
Je sors beaucoup dans le 18e, ou en tout cas proche Pigalle, et j'avais vu qu'il y avait une résidence là-bas, et je me suis dit, plutôt que de me rapprocher de ma fac, je préférais me rapprocher des endroits où je sors, c'est plus pratique. Au début, j'appréhendais un peu de déménager, etc., mais pour le coup, il n'y a pas trop de changements. J'avais un logement de 22 mètres carrés dans le 13e, dans le 18e, j'en ai un de 19 mètres carrés, donc je suis plutôt content en fait.
Le bémol pour cet étudiant en droit et sciences politiques à la Sorbonne, c'est le temps perdu avec ce déménagement. Il a plusieurs dossiers à rendre en ce moment à l'université.
Je prends du retard en fait. Mes chargés TD ne seront pas du tout cléments là-dessus, mais bon, c'est le risque à prendre. Sinon, ça allait être en fait pendant les partiels en mai, donc pas possible.
Pour éviter le trajet retour en août, le Crous propose aux étudiants qui le souhaitent de garder leur nouveau logement pour l'année prochaine.
Et des relogements auront lieu toutes les semaines jusqu'à la fin juin. Au total, 3200 étudiants en Île-de-France sont concernés. La semaine dernière, près d'une centaine avaient manifesté devant le ministère des Sports contre ces réquisitions, s'estimant dans le flou et abandonnées. Et puis, à l'approche des JO, le gouvernement compte renforcer la sécurité alimentaire et prévoit d'effectuer 100 000 contrôles cette année, soit presque le double par rapport à 2023, selon nos confrères de France Inter. Le gouvernement qui veut que les locataires trop riches quittent leur logement social, ceux qui ont largement dépassé les plafonds de revenus, a annoncé Guillaume Kasbarian, le ministre délégué au logement, dans une interview au journal Les Échos. Plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un. Aujourd'hui, annonce le festival du livre à Paris qui commence aujourd'hui. Et pour faire connaître les métiers de l'édition, il existe désormais un site internet unique, livreemploi.fr. Lancé lundi dernier, cette plateforme veut réunir toutes les offres d'emploi liées au secteur. Livre Emploi a été conçu par une association dédiée et a bénéficié du soutien du syndicat national de l'édition. Le site entend mettre en relation candidats et maisons. Il y a des professions méconnues, en raison notamment des mutations rapides des usages numériques, Pierre Ropert.
Sur cette plateforme gratuite, tout a l'air simple. En page d'accueil, on peut ou bien taper le nom de l'emploi souhaité dans une barre de recherche, ou bien scroller à travers une liste de propositions défilant à l'écran. Ouvert depuis 3 jours, le site propose déjà une quarantaine d'offres d'emploi signées Hachette, Gallimard ou encore Actes Sud pour près de 200 curriculum vitae déposés. Des chiffres qui devraient encore augmenter dans les semaines à venir dans un secteur qu'on s'imagine souvent à tort saturé, explique Juliette Bouet, directrice du développement de Livre Emploi.
J'ai beaucoup entendu que l'édition était un secteur fermé. On a certains métiers, notamment les métiers d'assistant d'édition, éditeur, où il y a assez peu d'offres et beaucoup de candidatures. Mais il y a d'autres métiers beaucoup plus méconnus. Je pense à la fabrication, je pense au marketing, à la communication, qui sont des métiers extrêmement importants dans la chaîne du livre, sur lesquels on peut rencontrer des difficultés de recrutement. Les maisons d'édition rencontrent beaucoup de difficultés aussi à recruter sur les fonctions support, tout ce qui est RH, informatique, finance. Et donc l'idée de la plateforme Livre Emploi, c'est de mettre en avant en fait le secteur de l'édition pour attirer des candidats sur ces métiers-là.
Ces offres d'emploi correspondent aussi à des besoins liés à de nouveaux modes de consommation, comme les audiolivres ou la lecture en ligne. Le secteur reste également très féminin. En France, le monde de l'édition emploie, selon le syndicat national de l'édition, plus de 14 000 personnes, dont près de 3/4 de femmes.
Rachida Dati, ministre de la Culture, annonce une expérimentation pour promouvoir la lecture en ouvrant des librairies et des bibliothèques dans des logements sociaux au sein de quartiers populaires. Les zones rurales sont aussi concernées. Premier test prévu à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Et si l'on est un peu curieux, on se laissera tenter par un panier artistique. Sur le modèle des paniers de légumes des AMAP, il existe un dispositif similaire, mais avec des spectacles à découvrir gratuitement et au dernier moment grâce à des artistes de disciplines différentes qui n'ont jamais travaillé ensemble. Des formes innovantes de création en circuit court, un dispositif initié après la crise du Covid. Pour le financer, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes, vient de débloquer 120 000 euros pour permettre à l'association Ouvrir l'Horizon de mettre en œuvre une 4e saison de ces paniers artistiques. Antonia Vitti est la coordinatrice de l'association dans la région.
Nous les avons convaincus. Lors de rendez-vous, nous les avons convaincus lors de représentations. Nous les avons convaincus de par la qualité, de par la cohérence dans les territoires. On fait en sorte que les réseaux se croisent. Donc des artistes de disciplines différentes qui se croisent, qui continuent à travailler ensemble, on ouvre le réseau. En 3 ans, il y a eu 121 représentations artistiques. Nous avons aidé et mis en connexion 71 artistes. 110 professionnels, donc si on rajoute les chargés de production territoriale et les régisseurs-régisseuses, et nous avons touché 86 lieux non dédiés au spectacle dans des petites communes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, créer un maillage territorial qui est très très fin. Donc oui, ce maillage, il est déjà là. Là maintenant, bien sûr, nous avons besoin de la confiance des financeurs pour que cela continue. Mais chaque année, c'est un combat. Curieusement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez, ne nous soutient pas, alors que le projet coche toutes les cases de leur politique culturelle.
Antonia Vitti de l'association Ouvrir l'horizon au micro de Benoît Grossin qui signe le grand reportage de ce soir. La culture sur les chemins de campagne, rendez-vous à 17h sur France Culture. Météo France prévoit un temps sec et plutôt ensoleillé aujourd'hui, des températures en hausse. 20 degrés à Lille, 22 à Paris, jusqu'à 25 à Montpellier. 8h16.